louange et remerciement au Seigneur, c'est notre destinée éternelle que nous soyons auprès du Seigneur. Lui qui nous a rachetés et aidés jusqu'ici, il sera avec nous jusqu'à la fin comme il l'a promis. En tant qu'être humain, nous dépendons de l'aide de Dieu du début à la fin. Et rien n'est plus vrai que la parole du Seigneur et la déclaration que notre Sauveur a faite. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Dans le royaume de Dieu, absolument rien ne peut être fait sans le Seigneur. Et tout ce qui est fait sans lui n'a aucune valeur, aucune validité. En fait, c'est fait en vain. C'est un obstacle à Dieu. J'ai pensé à cela lorsque Frère Schmitt a lu la parole et ce que Paul a vécu là-bas. Presque tous les visiteurs pieux de la Grèce se rendent à Athènes sur cette colline d'Arès, ou alors d'Arès, colline d'Arès. Il y a là un très beau panneau, le lieu où Paul a donné sa conférence. J'ai fait également partie, j'y suis moi-même monté deux ou trois fois. On peut très bien s'y rendre à pied depuis le centre-ville. Je crois que nous y sommes tous allés une fois en revenant d'Israël, si je me souviens bien. Mais la pensée qui m'a effleuré est la suivante. Paul avait vraiment quelque chose à dire. Il savait de quoi il parlait, car il parlait de celui qui lui avait parlé. Et c'est là le mystère de la prédication de la parole de Dieu. On ne peut absolument rien faire dans le royaume de Dieu par oui dire. Le Seigneur doit avoir parlé si l'on veut parler ensuite en son nom. Quand on voit les frères pieux là-haut, comment ils font leur discours et se réfèrent toujours à Paul. Mais Paul ne se référait pas à lui-même ni à Gamaliel. Il lisait là une pierre ou une inscription, un Dieu inconnu. Puis il dit dans Actes 17, verset 23, l'être que vous adorez mais que vous ne connaissez pas, c'est lui que je vous annonce. La réalité divine est pourtant entrée dans la prédication au moment où le Seigneur s'est révélé à lui. Combien de personnes se réfèrent aujourd'hui à Paul, se réfèrent aujourd'hui à Pierre, mais ont une prédication totalement différente de celle de Paul et de Pierre. Et si nous voulons tout résumer, combien se réfèrent au Christ? Et si je le dis ici aujourd'hui, ce n'est pas par méchanceté, mais simplement parce que c'est suffisamment triste et pourtant vrai. Même l'Antichrist, quand cela rentre dans son concept, lui aussi il a le Christ à la bouche. Et cela ne doit pas nous étonner. C'est pourquoi nous devons toujours examiner les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. Les esprits. Combien de fois prenons-nous les choses à la légère, les lisons-nous sans y prêter attention, sans avoir une vue d'ensemble et sans approfondir un peu la question. Ici, dans le même chapitre, il est en effet question du verset 10, acte 17 du verset 10, acte 17 du verset 10. Aussitôt, pendant la nuit, les frères firent partir Paul et Silas pour Béré, où dès leur arrivée, ils se rendirent à la synagogue dès juif. Verset 11. Ceux-ci avaient des sentiments plus nobles que les juifs de Thessalonique. Ils recevaient la parole avec toute la bonne volonté possible et cherchaient jour après jour dans les Saintes Écritures si tout cela était vrai. Ça, c'est la caractéristique des vrais croyants. Mais vous savez, et ce n'est pas non plus par méchanceté que je le dis maintenant, on peut s'attribuer le nom de Béré. Et cela existe à Herzhausen. Cela existe là-bas à l'école biblique. Nous y sommes allés en tant que frères. Certains sont assis ici. Ils étaient avec nous. Et là aussi, là-bas, nous avons témoigné de ce que Dieu fait dans ce temps. Et le seul nom que l'on se donne, que l'on s'attribue, ne sert à rien. Et c'est justement à cet endroit là-bas, là-bas à l'école dite biblique, un beau jour que nous avons présenté l'œuvre de Dieu et montré la photo de la nuée et de la colonne de feu. Et l'un d'eux, qui était un professeur principal, a jeté cette photo par terre en disant, cela n'a rien à me dire. On peut donc porter les noms, y compris Béré, et penser que l'on cherche dans l'écriture et que l'on cherche dans l'écriture. Il faut premièrement de l'humilité, deuxièmement du respect pour Dieu, et de la crainte devant Dieu, du respect pour sa parole, devant sa parole et pour ce qu'il fait. Car à ce moment-là, c'est à ce moment-là seulement que nous n'avons pas affaire à des hommes, mais au Seigneur qui s'est révélé. Et celui qui est de Dieu ne va pas chercher à sa manière, sonder à sa manière pour trouver confirmation de sa propre opinion. Il va sonder les Écritures, chercher à savoir si les choses sont ainsi exactes, si elles sont ainsi vraies. Et vous savez que lorsque Saul a rencontré le Seigneur en voyant la lumière, il a demandé « Qui es-tu, Seigneur ?» Il savait parfaitement qu'il s'agissait de quelque chose de surnaturel. Et celui qui n'y croit pas vraiment. Mais vous le savez, dans l'Ancien Testament, le Seigneur apparaissait dans la lumière éclatante de la nuée, le jour, et dans le feu, la nuit, pour guider le peuple d'Israël. Ce même Seigneur est apparu à Saul sur le chemin de Damas. Je vous l'ai dit ici, quand j'étais à Damas et que j'ai pris place dans la voiture dans laquelle Churchill est monté en 1949. Churchill. Et c'est dans cette même voiture qu'il a fait le tour en 1949 que j'ai été promené à Damas et en Syrie aussi, en général. Mais j'y ai pensé moi-même. Les gens s'empressent de vous montrer. Et ils disent, c'est ici que Paul ou Saul a rencontré le Seigneur. Et alors, il faut dire avec un cœur tout ému, frère. Le lieu et le point direct où cela s'est passé n'est pas si important. Je préférerais que nous ayons une telle rencontre aujourd'hui avec le Seigneur. Et aussi, autrefois, sur la colline d'Arès, Paul avait un message de Dieu. Il avait rencontré le Seigneur. Des gens lui ont dit, tu apportes des choses étranges. Mais c'était seulement pour eux que c'était nouveau. Et puis, beaucoup sont devenus croyants. Ensuite, donc, pas seulement un souvenir, pas seulement un nom. Vous savez, là-bas aussi, on peut aller plus loin. Il y a tout un mouvement du plein d'évangile. Là-bas, il s'appelle l'église de Philadelphie. Et quand on participe à des conférences, comme je l'ai fait, on voit que l'exigence, la prétention est tellement, tellement éloignée de la réalité, de la réalité. Mais nous ne sommes pas ici aujourd'hui pour nous permettre de porter un jugement à ce sujet. Nous sommes ici aujourd'hui pour nous demander nous-mêmes comment nous nous situons par rapport à Dieu et devant Dieu. Dans quel état nous sommes devant lui? Dans quelle mesure Dieu a pu atteindre le but avec nous sur le chemin que nous avons à parcourir? Dans quelle mesure nous avons fait des recherches dans les Écritures? Non pas pour trouver confirmation de notre opinion, de notre doctrine, de notre enseignement propre, pour trouver confirmation de notre point de vue, mais pour être enseigné par Dieu. Beaucoup lisent la Bible et ils pourraient presque enseigner Dieu, tant ils sont sûrs de leur affaire, de leurs choses, alors qu'elles n'ont rien de vrai. Non, nous voulons prier Dieu non pour le faire changer d'avis, mais pour qu'il puisse nous mettre en accord avec lui-même et avec sa parole. Vous savez bien que la plupart des gens prient pour que Dieu fasse telle ou telle chose. Ils le lui prescrivent presque sans même être en mesure que Dieu puisse leur confier quelque chose. Je veux dire que Dieu cherche des gens de nos jours qui ont été suffisamment éprouvés dans leur cœur et leurs reins pour savoir si Dieu peut leur confier quelque chose. Que dit frère Branham? Le Seigneur a du mal à trouver un homme, et lorsqu'il l'a trouvé, il ne tarde pas à s'enorgueillir et à vendre son don à une dénomination quelconque pour ensuite suivre le chemin avec elle. Dieu cherche des hommes qui marchent dans ses voies, des personnes à qui il peut confier quelque chose. Jusqu'à la fin, nous chercherons réellement dans les Écritures. Nous sonderons les Écritures. Et comme nous le trouverons, et seulement si nous le trouvons confirmé dans l'Écriture, nous le croirons. Mais ce qui n'est pas écrit dans la Bible noir sur blanc, nous ne le croirons jamais. Au grand jamais. Même si un ange descendrait du ciel et disait quelque chose, nous ne le croirions pas à moins que Dieu ne l'ait déjà dit dans sa parole. Nous allons bientôt passer à Jean 17, mais je voulais encore souligner quelque chose ici dans le chapitre 12 des Actes des Apôtres, à savoir concernant les voies de Dieu. Ici, il y a eu une persécution et Jacques a été tué. Vous pouvez peut-être le lire à partir du verset 1. Acte 12, verset 1. À cette époque, le roi Hérode a fait capturer des membres de l'assemblée. Ici, il n'y a qu'une seule fois le mot « membre de l'assemblée ». Mais nous savons ce que cela signifie. Au verset 1, la suite, il les fit capturer pour passer sa colère sur eux. Verset 2, c'est ainsi qu'il fit exécuter par l'épée Jacques, le frère de Jean. Verset 3, et voyant que les Juifs approuvaient son action, il fit aussi arrêter Pierre pendant les jours des pains sans levain. Voilà jusqu'ici. Je sais que vous connaissez l'histoire, mais ce qui me touche ici, c'est la pensée suivante. Le même Dieu qui a regardé Jacques mourir par l'épée, le même Dieu qui est le même Dieu est apparu à Pierre en prison comme la lumière brillante, et c'est lui le même Dieu qui l'a fait sortir et garder en vie. D'un point de vue humain, on pourrait se demander, Dieu n'aurait-il pas pu aussi empêcher la mort de Jacques? Mais qui sommes-nous, nous les humains, pour poser des questions auxquelles nous n'obtiendrons de toute façon pas de réponse? Les conduites de Dieu vont au-delà de notre compréhension. Jacques, un homme raffiné, un apôtre, un frère de Jean, un homme de Dieu, le Seigneur regarde. Comment est-ce qu'on le tue? Pierre est jeté en prison Il doit comparaître au tribunal. Mais avant que cela n'arrive, l'ange du Seigneur apparaît et le fait sortir. Sa tâche n'était pas encore terminée. Son ministère pas encore totalement accompli. Dieu sait quand notre tâche est accomplie, quand nous avons fait ce à quoi il nous a destinés, c'est alors que nous pouvons aller vers lui. De quelle manière? Par l'épée ou par la hache du bourreau ou dans la persécution ou non, par le martyr ou non, cela n'a aucune importance. L'important, c'est que nous reconnaissions Dieu est souverain dans toutes ses actions, dans toutes ses voies avec nous. Jamais nous ne pouvons dire, Seigneur, pourquoi as-tu permis que cela se produise maintenant? Ou pourquoi as-tu agi ainsi? Non, sa volonté reste éternelle et toujours juste. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 17, notre Seigneur a particulièrement insisté sur cette parole. Il n'y a guère de chapitre qui soit comparable à celui-ci en ce qui concerne l'accent mis sur la parole que le Seigneur a révélée aux siens. Vous savez que jusqu'au chapitre 13, nous avons le souper, ensuite le lavage des pieds, et alors le Seigneur dit oui, c'est un seul qui me livrera, et ainsi de suite. Et puis le chapitre 18 se poursuit aussi par Gethsémani jusqu'à Golgotha. Mais ce sont justement les chapitres 14, chapitres 15, 16 et 17 qui sont d'une si grande importance. Chapitre 14 à 17. Et voici ce qui est écrit au chapitre 17 à partir du verset 11. Et moi, je ne suis plus dans le monde, mais eux, ils sont encore dans le monde. Pendant que je vais vers toi, Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous le sommes. Verset 12. Tant que j'ai été au milieu d'eux, je les ai gardés en ton nom, ceux que tu m'as donnés. Et aucun d'eux n'a été perdu, sauf le fils de la perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Le verset 13, mais maintenant je vais vers toi et je dis encore ceci dans le monde afin qu'ils portent parfaitement en eux la joie telle que je l'ai. C'est maintenant le verset. Verset 14, je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils n'appartiennent pas au monde comme moi je n'appartiens pas au monde. Verset 15, je ne te demande pas de les enlever du monde, mais de les préserver du mal. Verset 16, ils n'appartiennent pas au monde, comme moi je n'appartiens pas au monde. Verset 17, sanctifie-les dans ta vérité, ta parole est la vérité. Verset 18, comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les j'ai aussi envoyé dans le monde. Verset 19. Et pour eux, je me sanctifie afin qu'eux aussi soient sanctifiés dans la vérité. Voilà ce que dit cette parole ici. Je leur ai révélé ta parole. Je leur ai fait connaître ton nom. Ceci est d'une très grande importance. Ces deux choses, si le Seigneur nous fait connaître le nom de Dieu et nous révèle la parole de Dieu, alors nous sommes aidés. Mais si l'un ne nous est pas donné et l'autre non plus, que se passe-t-il? Combien de personnes parlent du nom du Seigneur sans qu'il leur soit révélé? S'il est écrit ici, je leur ai révélé. Il doit s'agir d'une révélation. Et s'il n'est pas révélé, alors nous ne le savons pas. C'est pourquoi notre Seigneur a remercié à l'époque, « Père, je te remercie de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais que tu l'as révélé aux tout petits. Garde-les en ton nom que tu m'as donné. » Verset 11. De quel nom s'agissait-il? Et si je demandais aujourd'hui, alors qu'il est écrit ici, « Je leur ai révélé ton nom. » Quel nom a-t-il révélé? Il n'y a qu'un seul nom qui soit lié à notre salut, à notre béatitude, à notre félicité. C'est le nom de Jésus. Et c'est ce nom qu'il a révélé, que tu m'as donné. Tu appelleras son nom Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. Matthieu 1, verset 21. Et ensuite, cette puissante déclaration. Verset 14. Je leur ai donné ta parole. Il ne s'agit pas seulement de la lettre que chacun peut tourner et interpréter à sa guise, mais dans cette parole, la volonté de Dieu a été manifestée. Ce n'est pas une lettre morte dans laquelle nous sommes introduits, mais dans le témoignage global des Saintes Écritures, dans la volonté de Dieu, nous avons été introduits par la parole de Dieu. Je leur ai donné ta parole. Les vrais disciples de Jésus, ceux qui suivent le Seigneur, sont ceux à qui le nom de Dieu et la parole de Dieu ont été révélés. Si ces deux choses manquent, alors il nous manque au fond le premier et le dernier, et peut-être aussi ce qui se trouve entre les deux. Car c'est là que tout commence et que tout s'arrête. Le dernier verset dit aussi, Jean 17, verset 26, « Et je leur ai fait connaître ton nom, et je continuerai à le faire connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et moi en eux. » C'est pourtant là tout le mystère qu'il nous a été donné de connaître par grâce, parce que l'Esprit de Dieu conduit tout de même dans toute la vérité. Nous ne parlons pas notre propre langue, mais la langue de Dieu. Nous n'avons pas notre connaissance, mais la connaissance de Dieu. Et nous n'avons pas notre parole, mais la parole de Dieu. Et s'il en est ainsi, le Seigneur s'attestera et il sera manifesté que nous pourrons alors être plus noble que tous les autres et sonder les Écritures et les sonder encore, mais pas avec des lunettes, mais sans lunettes, afin de garder une vue claire. Beaucoup de gens regardent à travers les lunettes d'une assemblée, et puis, comme nous le savons tous, il y a des œillères à droite et à gauche, comme c'est parfois le cas pour les chevaux, lorsqu'on les bride pour ne pas les effrayer. Et les gens regardent avec leur propre manière de voir ce qu'ils voient. Dieu ne peut pas utiliser de telles personnes. Celui qui veut venir à Dieu n'a pas besoin de venir avec beaucoup de connaissances et d'enseignements. Il n'a besoin de rien savoir ni de rien avoir. Dieu a déjà préparé pour nous tout ce dont nous avons besoin et nous pouvons donc venir à lui et le recevoir. Avant que Frère Rousse ne reprenne le flambeau, voici quelques pensées tirées de Job, chapitre 22. Ici, il a été dit à Job, au verset 21, « Fais-toi donc un ami de Dieu et fais la paix avec lui. C'est ainsi que ton sort sera sauvé. » Comment pouvons-nous nous lier d'amitié avec Dieu? Comment pouvons-nous nous approcher de lui? Comment pouvons-nous faire la paix avec lui? Nous devons d'abord avoir reçu la paix avec Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. La paix avec Dieu est la paix au plus profond de l'âme. Notre Seigneur a dit, « Je vous donne ma paix. » Au verset 21, « Fais-toi donc ami avec Dieu et garde la paix avec lui. » Que Dieu nous accorde cela par grâce. Abraham a été appelé l'ami de Dieu. Jacques 2, verset 23. Dieu s'est lié d'amitié avec lui et il était l'ami de Dieu. Il a suivi le Seigneur. Il a servi avec obéissance. Et Dieu lui a frayé le chemin. Verset 21, c'est ainsi que ton destin se déroulera de manière salutaire. Que Dieu l'accorde par grâce. Le verset 22 dit, reçois donc l'instruction de sa bouche et que ses paroles habitent ton cœur. N'est-ce pas là la somme de toutes les prédications? Accepte les paroles de sa bouche, non pas les paroles qui sortent de la bouche d'un homme, mais les paroles qui sont sorties de la bouche de Dieu. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Accepte les paroles qui sont sorties de sa bouche et garde-les dans ton cœur ou fais-les vivre dans ton cœur. Fais-les habiter dans ton cœur, là où la parole de Dieu peut faire sa demeure en nous. Le Seigneur aussi pourra faire sa demeure en nous car il est inséparable de sa parole. Nous lisons ensuite au verset 23, « Si tu te convertis au Tout-Puissant, tu seras reconstruit. Si tu ôtes le péché de tes tentes, Dieu donnera aussi cela à tous ceux qui viennent à lui. » Notre conversion n'est pas vers une assemblée, ni vers une connaissance ou une doctrine, ni vers un enseignement ou vers une dénomination. Notre conversion doit être à Dieu, vers Dieu. Et lorsque frère Branham a dit à l'époque, « Je crains que les gens ne viennent qu'à une assemblée, mais pas à Christ. » Combien cela était vrai. Partout, les gens deviennent croyants de telle ou telle manière, baptiste, méthodiste, de manière baptiste, méthodiste ou bien pentecôtiste. Il y a des centaines de façons de croire. Mais Dieu n'en a qu'une seule. De la manière divine dont il est écrit, vous êtes de race divine. Et si nous sommes devenus de race divine ou si nous voulons devenir de race divine, pour commencer, selon Actes chapitre 17, verset 28, nous devons avoir vécu une conversion divine, non pas sur le modèle d'une assemblée, non pas avec des cours de rattrapage, mais réellement, par la grâce de Dieu, une vraie, véritable conversion à Dieu. Et c'est alors que son nom nous est révélé, que sa parole nous est révélée. Si nous nous sommes convertis à lui de tout notre cœur, dans le cadre d'une conversion à la manière de Dieu, non pas selon la compréhension d'une assemblée, mais selon la compréhension de Dieu. Maintenant arrive le verset 24. Job 22, verset 24. Job 22, verset 24. Oui, jette le minerai d'or loin de toi dans la poussière. Et l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents. Verset 25. Que le Tout-Puissant soit ton minerai d'or. Et que l'argent soit pour toi sa loi. Non parce que nous avons sur terre, si nous avons de l'or, nous pouvons le jeter dans le torrent ou l'enterrer quelque part. Afin que Dieu soit notre minerai d'or. Le Tout-Puissant veut être pour nous tout en tous. On entend souvent, et frère Branham raconte cette énorme histoire dans les premiers temps de l'Amérique, les chercheurs d'or ont cherché de l'or partout, comme en Afrique du Sud et aussi dans le sud-ouest de l'Afrique. Et croyant, et croyez-le ou non, ils en ont trouvé en quantité. mais cette époque est presque révolue. Quoi qu'il en soit, ce chercheur d'or s'est retrouvé avec un sac plein d'or et il avait un chien de garde. Et ce chien a aboyé plusieurs fois. Et le propriétaire qui avait trouvé l'or a dit au chien, shut up, c'est-à-dire tais-toi. Et il avait aussi un beau fusil avec lui et cet homme voulait dormir. Mais il n'a pas compris que le chien a appartenu au voleur et au brigand. Et à la fin, il s'est tellement fâché contre le chien qu'il a dit, c'est la dernière fois que tu aboies. Et il y a eu un bruit et le chien était mort. Et quelques minutes plus tard, l'homme qui avait tué son chien de garde était mort. Et le voleur ou les voleurs ont pris l'or. Et cet homme a dit auparavant en lui-même, tais-toi, demain je vais à la ville avec cet or et alors je serai un homme riche. Et ce n'était pas un homme riche, c'était un homme très pauvre. Un pauvre homme mort. Il a tué l'appel au réveil. Il a tué ce qui l'avertissait. Puis sa propre mort a suivi. Bien-aimé, Dieu nous appelle. Dieu nous avertit. Dieu veut nous réveiller. Il veut nous parler. Ici, il nous est rappelé que nous devons considérer le Tout-Puissant comme notre or et l'argent comme sa loi. Donc, prendre sa loi comme de l'argent. Comme si ce serait de l'argent. Dans la note de bas de page, il est dit ici, et que tu as considéré comme de l'argent rayonnant. Donc, se référant à sa loi. L'argent brille peut-être plus que l'or. Les deux doivent nous convenir s'ils peuvent être appliqués à Dieu. Ensuite, verset 26 dit, alors tu t'appuieras sur le Tout-Puissant. Tu élèveras vers Dieu ta face avec confiance. Que Dieu puisse susciter en nous une telle confiance en lui. En lui. Il est toujours bon de pouvoir compter sur quelqu'un. Quand on est abandonné deux ou trois fois par quelqu'un et que les gens ne tiennent pas leur parole, on finit par ne plus savoir à quoi s'en tenir. Et il est alors difficile d'avoir vraiment confiance. Mais nous pouvons faire confiance à Dieu. Nous pouvons être sûrs que le Tout-Puissant tiendra sa parole à chaque fois, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Verset 26. Oui, alors, tu t'appuieras avec confiance sur le Tout-Puissant et tu élèveras ton visage vers Dieu avec confiance. Si seulement cela pouvait nous être donné dès aujourd'hui, maintenant, à cette heure, que nous puissions nous appuyer de tout cœur sur le Tout-Puissant et élever notre visage vers notre Dieu avec confiance. Verset 27, si tu le supplies, il t'exaucera et tu pourras payer tes vœux. Verset 27, si tu le supplies, il t'exaucera et tu pourras payer tes vœux. Payer tes vœux. Savez-vous que nous pouvons faire tant de vœux à Dieu et que nous ne sommes pas capables de tenir et d'exécuter quoi que ce soit, à moins que Dieu ne nous donne la grâce et la force de le faire? Combien de personnes ont déjà fait des vœux à Dieu et n'ont pas pu les tenir? Mais alors, il est dit ici, il t'exaucera. Et si Dieu nous exauce et tourne vers nous sa face en grâce, son visage en grâce, nous pouvons alors lui payer nos vœux. Car il nous donne alors la force dans le cœur, la volonté et la disposition à faire ce que nous lui avons promis. Cela va encore plus loin, au verset 28. Si tu entreprends quelque chose, tu réussiras. et la lumière brillera sur tes chemins. C'est ce que nous souhaitons. C'est ce que nous souhaitons tous de tout cœur, que Dieu nous exauce, que nous puissions élever notre visage vers lui en toute confiance, en toute confiance. Et que nos prières ne se perdent pas dans l'espace, mais qu'elles soient portées jusqu'au trône de la grâce et qu'il puisse les entendre et y répondre. Et y répondre. Verset 27. Si tu le supplies, il t'exaucera et tu pourras payer tes vœux. Verset 28. Si tu entreprends quelque chose, tu réussiras et la lumière brillera sur tes voies. Sur tes voies. Verset 29. S'ils descendent, tu crieras en haut et il relèvera l'affligé. Vous avez tous lu. Je vais le lire encore une fois. Au verset 29. Quand ils descendent, c'est parfois comme si les croyants pensaient que celui qui est maintenant un enfant de Dieu, alors la trajectoire est si belle, toujours aussi belle vers le haut. Son chemin est toujours vers le haut. Nous pouvons lire ici. Lorsqu'ils descendent, tu cries en haut. On sait très bien que le chemin de Dieu doit monter. Mais s'il arrive qu'il descend, alors il faut aussi à un moment actionner le frein. Et on dit non, ce n'est pas à cela que nous sommes destinés, mais à ce que cela monte. Puis, lorsque le chemin de Dieu nous est éclairé et que la pente est vraiment descendante, nous exclamons, verset 29, vers le haut, nous disons vers le haut, et il aide celui qui est abattu. Il aide à se relever. En général, c'est ainsi. Quand l'un vient, l'autre s'y ajoute, et c'est ainsi que les choses se passent. Et à la fin, même les freins lâchent. Mais avec Dieu, il y aura toujours un rebond. Nous ne connaissons pas Dieu autrement. Nous sommes destinés à cela, même si les circonstances nous y poussent, et que parfois nous devrions même aller vers le bas. Si Dieu est avec nous, et nous exclamerons et ferons monter vers Dieu le cri de détresse de notre âme en disant « Vers le haut !» Et alors il aidera l'affligé à se relever. Dieu aide l'affligé à se relever. Verset 30. Même le coupable, il le fera échapper et il échappera par la pureté de tes mains. Même le coupable, il le laissera échapper. Auprès de Dieu est le pardon, auprès de Dieu est la grâce, afin qu'on le craigne. Bénis tous ceux et celles qui l'ont choisi, parce qu'ils ont été choisis par lui. Bénis tous ceux qui remarquent que lorsque les choses ne vont pas comme elle le devrait, le cri de détresse de l'âme peut s'élever vers Dieu. Que nous levons notre visage vers Dieu avec confiance et que nous disons en haut, vers le haut, avec l'aide de Dieu. Et le Seigneur viendra alors lui-même au secours de celui qui est abattu. Il consolera les affligés et se montrera fidèle envers tous ceux qui cherche refuge auprès de lui et qui le trouve aussi auprès de lui. Puisse Dieu le Seigneur bénir toutes ces paroles en nous, toutes ces paroles qui nous sont adressées afin qu'elles restent dans nos cœurs, que nous les mettions en pratique, que nous les appliquions et qu'une nouvelle confiance en notre Dieu soit suscitée par sa parole et par son esprit, y compris par cette brève méditation. Que Dieu le Seigneur nous bénisse tous. Amen.